La bande originale avec les Lacadons, vous êtes Gilles, Morgane, Dignan, Alexis Rossignol, Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Bassuot, Daniel Morin.
Bon, Morgane.
Et notre invité, Tahar Benjelloun.
Ça sent le kiwi, non?
Ça sent le... Ah oui, non, c'est un cocktail. Elle s'est fait, Leïla, un cocktail à base de kiwi.
Opération corps de rêve, pas du tout à base de céleri.
Opération corps de rêve.
Ah, il y a des gens qui disent céleri, d'autres qui disent céleri.
Ah,
et céleri, et toi, non, tu dis deux choses différentes.
Tu dis céleri.
Et puis il y a ceux qui n'en mangent pas céleri. Du tout, comme ça, ils ne sont pas emmerdés.
Ouais, c'est ça. Puis,
en tout cas, ce céleri qui sent le kiwi, c'est bizarre.
Le truc vert, quoi.
Le truc vert comme ça. Alors.
Nous allons parler de couleurs, justement, avec Tahar Benjelloun et son nouveau roman, Les couleurs, La couleur des mots. Roman qui lui permet, à travers toutes les images et ces fameuses couleurs qu'il a pu rencontrer, croiser dans son enfance, se raconter dans son enfance marocaine, mais aussi la découverte du cinéma, essentiellement aussi. Il n'y a pas que des mots, il y a beaucoup d'images.
Il y a un Garner.
Ah, grave, fou amoureux. On va en parler avec Tahar Benjelloun, mais d'abord le blind test. Attends, j'attends que Tanguy soit prêt, sinon après je vais me faire...
Je suis prêt, pardon.
Alors, ça y est, il a sorti sa trousse, sa gomme, son taille.
Il a un côté Marie Kondo, lui.
Allons-y. Qui chante ça?
Tanguy.
Oui.
Guns N' Roses.
Non. Mais je comprends.
Tanguy, Jean-Jacques Goldman.
Exactement.
Rien à voir. On peut écrire clair et gris foncé, oui.
C'est génial. Guns N' Roses.
Oui, mais le début de batterie, ça m'a fait penser. On est à peu près dans les mêmes années, c'est 87.
Entre gris clair et gris foncé, et puis de toi à moi, je pense que Jean-Jacques écoutait Guns N' Roses.
Oui, j'imagine.
C'est pas mauvais.
Voilà. Est-ce que je peux dire que Tanguy me fait flipper parfois?
Ah ouais.
On est d'accord sur ce.
Ah mais moi,
on est à peu près dans les mêmes années, 87.
Mais non, oui, mais son côté hypermnésique, mais sur des trucs très.
Ouais, il a raison. Ouais. Il a raison, mais c'est la bande originale de sa vie, c'est tout.
Je suis un peu déçu qu'il donne pas le mois, mais bon.
C'était un mardi en tout cas.
En tout cas, il pleut.
Daniel. Le blanc blanc.
Oui, mais qui?
Amon.
Oui. Ah, tu vois, tu nommes même Marcel, on oublie. Alors, okay.
Ah ouais, t'en connais un autre?
La bleue.
Que Daniel,
ouais.
Qui chante
Daniel,
moi
qui peut
Michel Amon.
Ah oui.
Bon.
Vous avez senti le thème, là, ou...
Couleur, non?
Oui. On est sur un thème couleur, tu sais, comme les cuisiniers. Alors là, nous sommes sur une tarte.
On part sur.
Ouais, ouais. Mais
ça, bonne dégustation.
C'était hier
bonne fin
avec,
de dégustation.
Avec
bonne
Julie fin Andrieux. Et là, qui chante ça?
Tanguy, ah
bah... oui.
Marvin Gaye.
Non.
Non.
Tom.
Jean-Paul.
Non.
T'as dit quoi?
Let's Billy Paul.
Attends, t'as dit Billy Paul?
Ouais, donner son Billy Paul.
Ah non,
attends.
Al Green.
Al Green, évidemment, on avait dit les couleurs.
Celui qui a marché sur la lune.
Oui, le même.
J'ai cru que t'avais dit RuPaul.
Let's stay together, Al Green.
Voilà.
Tout le monde sait que le Al est une couleur.
Les vents que je me suis pris là-dessus.
Impressionnant.
À force de danser dans les courants d'air, on se dit t'es marrant. Qui chante ça?
Ah, si.
Chute.
Daniel, Elton John.
Oui,
ouais, c'est beau. Ouais.
Yellow Brick Road.
Je me vois.
Couleur brique.
Dans le magasin de bricolage.
Dans le magicien d'Oz, non le...
Ouais, follow the Yellow Brick Road.
Ah. Non, c'est pas là.
Ouais, c'est pas là.
Ah, j'étais à fond. Je m'en fous, je l'attends. Ah, bah, c'est là.
Non.
Si. Maintenant. Qu'est-ce que c'est bon ça?
Ah.
Qui chante ça?
Ah, c'est pour Daniel ça. On dirait Tanguy, Johnny Cash.
Joli!
On peut le garder, j'aimerais bien faire un tapis.
Et là c'est l'orange, Orange Blossom Special Johnny Cash. Et tout à l'heure c'était le jaune, Delton John.
Ah, il m'énerve. On serait pas vendredi. J'irai boire un calva.
Non, c'est Yellow Brick Road. Ça m'a fait rire d'avoir yellow et jaune dans la même. Bon, c'est pas grave. Je m'amuse tout seul dans mon coin.
C'est bien.
Et surtout,
il est autonome.
Pour ceux qui sont pas bilingues, voilà, c'est pas excluant du tout.
Quoi.
C'est
vraiment... Espace à l'intérieur. Non,
c'est mais ça a l'air bien. Ça, il y a du monde. Hein.
Espace à l'intérieur.
Je chante ça.
Tanguy.
Oui.
Bleu comme toi, Tindao.
Oh.
Il fait des blagues, il danse. Dommage.
Bonjour, c'est Tindao.
Oh, les imitations. Oh,
non. Ouais,
c'est un peu trop puissant.
La nuit porte conseil.
Et je sais. Ah, il y a un petit déhanché intéressant.
Le mal que l'on nous fait.
Surtout naïf, vous avez la marinière comme Étienne Dao dans les années 80 sur ses pochettes d'albums.
Il manque le perroquet.
Voilà, ça va venir. Et Pierre-Régis à la photo, je crois.
J'ai une info, scoop perso people.
Oh non.
Vas-y, fonce.
Quoi, non.
Qu'est-ce qu'elle a mangé des graines, l'autre.
J'ai croisé Étienne il y a.
Étienne Dao, hein.
On en parle là. Ouais. J'ai croisé Étienne il y a une dizaine de jours.
Tard.
Et oui.
Le perroquet est mort.
Non. Et il a un nouvel album qui va arriver.
C'est pas vrai.
Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Moi.
Et Gaël Faye aussi.
Ah, mais il n'était pas à la même soirée alors. Attention pour l'instant. Et, mais il n'y a que Tanguy et Daniel. C'est quoi cette histoire?
Bah ouais. Oui, mais bon, si on n'a pas dépassé les années 2000, donc globalement.
Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Tout se joue là-dessus.
Tanguy, Bernard Lavillier.
La musique parfois.
Oh la vache.
Des accords majeurs. Ouais.
Notre invité,
87.
Qui font rire les enfants.
Bernard Lavillier.
Super. Ouais, c'est la semaine prochaine, non?
C'est vrai.
Ouais. 25.
Ouais.
Il a sorti un album, lui aussi.
Grosse semaine.
Oui.
C'est vrai? Il a sorti il n'y a pas longtemps. Hein.
Absolument. Et vous allez le recevoir dans la bande originale.
Ah, tu seras même pas là?
Ben non.
Ben non,
j'ai pas le temps. J'ai muscu.
Ah, j'ai pars maintenant.
Il a Zumba. Ouais.
Victoire de Tanguy Pastureau, messieurs, dames. Et merci d'accueillir Tahar Ben Jelloun.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Alors pour l'anecdote en musique, vous avez joué avec les jours de la semaine vus par Tahar Ben Jelloun. Parce que d'abord il y avait lundi, gris.
Ouais.
Le mardi,
bleu, le ciel de Provence.
Le mercredi est vert. Le jeudi est jaune. Non, pardon, jaune. Et où? Yellow. L'orange pour le jeudi. Le vendredi. Il y a quand même du noir. Je suis tombé de jaune.
Ouais, je crois que c'était blanc ou orange le vendredi, non?
Je
ne me souvenais plus.
Ah, c'est ça. Bleu samedi et noir du dimanche. C'est ça. C'est ça. Bienvenue, t'as.
Bonjour.
Bien, merci.
Merci. Tahar qui s'est accordé à nos couleurs de France Inter avec un superbe.
Exactement.
Rouge.
Alors donc sur la vidéo vous ne le verrez pas parce qu'il est ton sur ton.
On voit une tête et des mains. J'ai pas pensé là.
C'est l'incruste.
Les couleurs. Pourtant, les couleurs.
Je suis venu souvent ici.
Les couleurs sont.
Vous allez au repas après avec un pull bleu quand
même. Non. Moi je suis fidèle à Inter.
Inter. La couleur des mots, ce sont ces couleurs qui ont marqué votre enfance. Les épices vendues par votre papa, les vitraux de certaines maisons, et puis les tissus de ces femmes qui venaient, parce que les femmes sont très présentes également. Vous avez grandi avec ces couleurs et avec cette féminité.
Ben oui.
Et le maquillage.
Enfin, le maquillage, il n'y avait pas de produits cosmétiques à l'époque. Il y avait des choses naturelles qu'elle mettait, le rouge, avec des produits naturels, des plantes, tout ça. Oui.
Et à partir de ces couleurs, vous avez, parce que vous n'écriviez pas ou parce que vous ne saviez pas comment ça s'écrivait, d'abord commencé par faire des dessins. Généralement, d'ailleurs, le bleu était en haut parce que c'était le ciel. Tous les dessins avaient du bleu en haut. Et ensuite, vous y rajoutiez votre patte en allant jusqu'aux caricatures qui faisaient pas forcément plaisir à votre papa.
Ben non, parce que je caricaturais les membres de la famille. Et ça me...
C'est risqué.
Ça m'amusait, quoi, de... Et puis en plus, ça donnait des discussions un peu. Mon père était très, avait beaucoup d'humour. Ma mère pas du tout. Et ma mère se mettait en colère. Elle disait quand même.
Surtout quand vous lui piquez son maquillage pour faire des dessins.
Son rouge. Mais ça, elle comprenait pas pourquoi je faisais ça.
Mais ça coûtait cher.
C'est du maquillage perdu parce que moi je faisais les dessins avec. Oui.
Dessins avec lesquels elle allumait la cheminée ou elle faisait du feu.
Voilà, en plus.
Non, parce que ma mère, elle n'avait pas d'humour du tout. Mais mon père, il rigolait beaucoup de mes caricatures, il trouvait ça très bien.
Non, mais Alexis Le Rossignol a raison, de voir vos dessins jetés dans dans le feu, c'était...
Oui, c'était pas important, parce que c'était des trucs que je faisais comme ça. Hein.
Ça vous a pas traumatisé des...
Non, on les jetait, ça y est, c'est fini.
Ouais.
On les regardait, puis basta.
Ah non, mais moi je fais ça avec les dessins de mes enfants, ma femme m'engueule, hein, je peux pas...
Ouais, ça dépend des parents.
Il faut les garder.
Les parents, ils gardent tout de leurs enfants.
Oui, vous ça n'a pas été le cas. Il y a même
non, j'ai rien gardé du tout.
Votre premier ouvrage, vous l'avez pas gardé, qui était un vous avez dessiné. C'était James Dean, si j'ai bonne mémoire.
J'ai fait un petit livre sur James Dean.
Un recueil.
J'étais un fan de James Dean, mais c'était il y a très longtemps. Et je comprends.
Mais oui, mais
pas
c'est, c'est dans votre livre. Donc, pardon de parler de votre livre. Vous me racontez des choses, je vous en parle. Vous me dites, non, c'était il y a longtemps. C'est écrit dans le livre.
Oui, 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 je sais.
Vous l'avez relu ou pas?
Vous l'avez écrit ou pas?
Vous l'avez colorié au moins, rassurez-moi.
Ah oui, oui. Non, mais James Dean, c'était à l'époque quelque chose de. Oh, on était fans tous de James Dean. C'était quelque chose d'extraordinaire.
C'est vrai que vous avez des photos de lui dans la chambre?
Oui, oui. Ben oui, oui, j'avais des photos de lui. J'avais des photos de Eva Gardner, d'Elizabeth Taylor, et puis de Jacques Brel. Jacques Brel. Polanka, j'avais pas sa photo, mais j'écoutais souvent ses chansons. Et j'étais très étonné de le retrouver aujourd'hui, bien arrangé, son visage. Il y a 50 ans de ça, quand même, quand j'écoutais Polanka.
Ah oui.
Mais personne ne connaît Polanka ici.
Si, bien sûr. Oh, Diana. C'est ça.
Diana, oui. Bah Diana, oui, Diana. Et puis You Are My Destiny.
J'ai découvert sur le tard, moi.
You Are My Destiny.
On va l'écouter tout à l'heure dans votre bande originale. Ouais. Donc, la progression de votre livre, la couleur des mots, commence en effet par ces sensations de couleur, d'odeur, d'épices, de parfums.
Puis surtout le départ de Fès à Tanger, parce qu'on part du 9e siècle au 20e.
Ouais, la phrase est violente quand même. On passe du 9e siècle au 20e siècle.
Ça n'a pas changé. Hein.
C'est une violence inouïe.
Ça n'a pas
quand
changé
même.
Du tout, du tout.
Et puis on découvre le bleu.
Oui. Là, on arrive le matin tôt par le train qui met 24 heures. On arrive et puis la gare était sur la plage. Et la mère mangeait la ville. Elle rentrait dans la ville. Pour un gamin de 7 ans, il voit ça. Ah là là, c'est extraordinaire.
Ouais, votre souvenir,
mais attends, il n'y a pas que ça. Il y a une autre mer.
C'est ça.
Et l'Atlantique de l'autre côté.
C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'au détroit de Gibraltar, vous voyez ces deux mers, enfin, la mer et l'océan qui se rencontrent.
C'est unique.
Bleu ou vert par moment.
Oui, alors, après, on m'a amené au Cap Spartel où ils se rencontrent. Et c'est vrai qu'on passe du vert au bleu, enfin du bleu au vert, et c'est assez fascinant.
Est-ce que les couleurs, pour vous, sont mariées à des mots, on le comprend avec le titre de votre livre, mais est-ce que les couleurs sont liées à des émotions aussi? Est-ce que le bleu est forcément synonyme de bien-être, de bonheur, ou ça peut être aussi plus triste?
Non, le bleu, c'est apaisant. Il y a des couleurs qui sont violentes, il y a des couleurs que... Mais ça dépend. Parce que moi j'ai peur de la mer. Enfin, j'adore la regarder, mais j'ai peur de l'eau, j'ai peur
de nager.
J'ai peur. Mais j'adore, je suis fasciné par le bleu et les nuances du bleu. Alors, lorsque Matisse est arrivé à Tanger en 1912, il n'a pas eu de chance. Il est arrivé il est resté 3 semaines dans sa chambre d'hôtel.
Qu'on peut encore identifier quand on va à Tanger, sa chambre d'hôtel, avec la vue qu'il a pu peindre depuis sa fenêtre.
Il a failli partir, et puis un jour, le soleil est arrivé, et une lumière fabuleuse est arrivée. Après la pluie, il y a une lumière magnifique, et là, il a découvert la lumière de la Méditerranée à Tanger.
Alors, c'est ce que j'allais dire.
Tout a changé dans son travail.
Tout a changé à Tanger, ça c'est un titre. Ça.
Bon, on dirait
une chanson.
Non, et puis quand vous parlez de Tanger, ce qui est fascinant, c'est que vous parlez de Jean Genet aussi. Vous parlez de. Il y a toute une tradition culturelle, cinématographique. Il y avait des stars d'Hollywood à Tanger. C'était quand même. C'était un peu le
Saint-Tropez. Non, c'est Jean Genet qui dit que c'est le.
Sur le Saint-Tropez de.
Sur le Tard, ouais.
Il détestait.
Lui, il n'aimait pas.
Non, il n'aimait pas. Il n'aimait pas. Il disait Tanger la trahison.
C'est pire que Saint-Tropez.
Ouais. Il y a BHL déjà, donc.
Il n'y était pas à l'époque, il n'y était pas. Mais il y avait quand même.
Ah, vous êtes au top de l'humour hein, aujourd'hui. Hein. Vous êtes prêts pour la vanne. Hein. On est chaud bouillant sur la vanne.
Non, mais il y a eu Tennessee Williams.
Francis Bacon.
Ouais. Paradoxalement, les couleurs sont importantes dans votre enfance, dans votre admiration des vitraux, au point d'un jour même d'en dessiner et d'en créer. Ça vous permet de faire. Vous insistez d'ailleurs sur l'importance de la laïcité, mais sur la vanne du musulman qui fait des vitraux pour une église. Mais
ça, c'est pas une vanne, celle-là. Elle est vraie.
Elle est vraie, oui. mais vous faites ce rapprochement.
Je suis pas sur la même longueur d'onde.
C'est un rapprochement qui peut prêter à sourire, en tout cas. Mais ce que je voulais dire, c'est que les premiers émois et images que vous vivez au cinéma, c'est dans le noir et blanc. C'est avec des films cultes, mais en noir et blanc.
Alors c'est très paradoxal parce que le cinéma pour moi c'est le noir et blanc. J'ai découvert le noir et blanc et après quand la couleur est arrivée j'étais un peu déçu. C'est très curieux hein, parce que c'est l'estomac color était très très exagéré.
C'est le magicien d'Oz.
Saturé, ouais.
C'est le magicien d'Oz dont on parlait, qui était le premier film qui passait. D'ailleurs, lui-même, le film commence en noir et blanc et bascule vers le.
Et après, il y a eu le cinémascope avec la tunique. Ou l'Égyptien, enfin la tunique, je crois, avec Victor Mature qui jouait le rôle principal. Et c'était alors tout a changé, tout a changé. Mais moi, je suis resté très fidèle au noir et blanc jusqu'à aujourd'hui.
Et le cinéma il a été le deuxième virage important. Il y a d'abord eu évidemment les mots pour vous, et surtout enfin les couleurs, j'ai envie de dire, et ensuite le cinéma avant même l'écriture.
Avant l'écriture, le cinéma c'est un film par jour. Et c'est extraordinaire parce que j'avais convaincu mon père que voir un film, ça fait partie des études.
De votre boulot.
Oui.
Mais au point d'y aller tous les jours.
Tous les jours, oui. On avait deux cinémas face à face qui changeaient de programme tous les jours. Et c'était formidable. On sortait de l'école et paf, on se précipitait dans le cinéma.
Vous aviez quoi? 25 centimes, je sais pas.
C'était des pessettes.
Des pessettes par semaine?
On avait 25 pessettes par semaine et c'était 5 pessettes la place au cinéma.
La couleur des mots. Alors, ce qui est formidable dans ce livre vous racontez vos parents, votre famille, votre éducation, justement, le plaisir du cinéma, l'importance de ses odeurs, de ses couleurs, de ce voyage de Fès à Tanger, la découverte du bleu, la découverte de l'eau qui va influencer. Mais surtout, vous racontez aussi l'importance du travail, le rapport au travail avec des gens qui ont compté pour vous. Tu parlais de Jean Genet. Il y a Guy Debord aussi. Il y a comme ça des auteurs, des livres qui ont eu une résonance et une importance pour vous dans le travail et puis des rencontres aussi avec des galéristes qui vous ont exposé avec le roi Mohamed VI. Enfin, toute cette histoire vous permet, à travers les couleurs, les mots et les images, de faire finalement votre bio à votre manière.
Oui, c'est une façon de se raconter sans se prendre au sérieux. Et en même temps...
Sauf quand le roi du Maroc vous achète 6 toiles et qui vient les décrocher pendant l'expo. Là, ça doit faire un truc bizarre. C'est à la fois, il déshabille votre exposition, mais en même temps, c'est quand même le roi qui achète 6 toiles.
Oui, c'est extraordinaire. Après, quand je l'ai vu, je dis « Majesté, merci », etc. Il me dit « Mais non, c'est pas de la flagronnerie ». Cette expression, je dis « Ah oui, d'accord, très bien ». Parce qu'il soutient les artistes.
La culture.
La culture. Et moi, je pensais qu'il a acheté une toile comme pour encourager tout le monde. Mais là, il a tellement aimé, on a acheté 6.
La couleur des mots, à partir, c'est finalement la naissance de tout ce qui fait votre travail de peintre, de dessinateur, de réalisateur, tout ce qui vous a amené vers la création. On va continuer d'en parler, c'est publié chez l'Iconoclaste. Nous, on est ravis de vous accueillir, vous le savez, Tahar. Vous êtes un
merci
peu, vous êtes un peu chez vous. Je me demande d'ailleurs si nous, on n'est pas chez vous.
Merci de nous recevoir, Tahar.
C'est ça.
Merci de nous accueillir.
Mais Morgane Cadignan, elle ne vous aime pas du tout. Mais pourquoi? Mais pourquoi es-tu méchante?
Mais c'est vous que j'aime pas, Nagui. Franchement, ah oui, non, ça va bien. Tahar Benjelloun, c'est la troisième fois qu'il vient dans l'émission depuis que je suis là. À un moment, je vais le lasser, quoi. C'est pas possible. Il va arrêter de m'aimer. Et je crois que j'ai la flemme de vivre dans un monde où Tahar Benjelloun ne m'aime pas. C'est un peu violent pour moi. Tahar, dans ce livre, La couleur des mots, vous racontez à travers les couleurs, comme le bleu de Tanger. Et c'est fou parce que de toutes les manières de raconter l'enfance, c'est vrai que le prisme des sensations, des odeurs, des couleurs, c'est peut-être le plus évident, le premier auquel on pense. Si toutes les marques de pâtes brisées industrielles ont construit leur communication là-dessus, c'est qu'il y a un truc dans les odeurs de l'enfance. Et c'est vrai que tu racontes toujours les odeurs et les couleurs un peu jolies. C'est plus poétique et racontable quant à Madeleine de Proust. C'est quand même un truc qui ressemble de près ou de loin à une Madeleine. Parce que te retrouver dans l'émission La Chanson Secrète pour chouiner en disant « Ma Madeleine de Proust, c'est l'odeur de l'urine, ça me renvoie à l'enfance à chaque fois. » Ça concerne pas grand monde, sauf si t'as grandi dans n'importe quelle impasse de la rive gauche ou si t'es fils de laborantin maladroit, quoi. On a chacun notre truc différent avec les odeurs de l'enfance. Après, sans vouloir faire de clichés,
non,
c'est vrai
plaît.
Que dès que tu passes en dessous de Marseille, il y a toujours un truc en rapport avec la fleur d'oranger.
Mais bien sûr.
Et c'est la meilleure bien odeur sûr, du monde. Moi, je vous le dis, si je pouvais allumer le petit doigt de Leïla pour faire une bougie géante, mais croyez-moi, crois que je me priverai pas. C'est un peu raciste, mais ça
c'est jouable. Tu peux allumer les lumières.
Je fais que ça. Pour certains, non mais c'est vrai. Pour certains, c'est l'odeur des mirabelles qui renvoie à une maison de vacances, la sensation de la pierre froide où on venait chercher un peu de fraîcheur à 15h en plein mois d'août.
Ouais.
Après, ça, c'est vrai que c'est des sensations de CSP+. Quoi. C'est pas les miens parce que dans les pubertas, excusez-moi, mais vu les hectares de jardin dont les gars disposent, vous achetez vraiment des saucisses en grande surface. Allez chez le boucher, non, bande de crevardos. N'importe quoi. Moi, j'ai ça, les amis, avec l'odeur des cigares. L'odeur des cigares, ça me ramène directement à mes 8 ans. Rien à voir avec mon père, mais c'est vrai que j'ai commencé à m'enfiler des cohibas assez tôt. Ça me piquait la gorge et après, avec mes cousins, on faisait des canulars téléphoniques. Mon grand-père, il est mort en pensant qu'il avait entretenu une liaison téléphonique avec Macha Béranger pendant des années. J'ai entendu des choses qui m'ont fait sortir de l'enfance immédiatement. Heureusement, je pouvais aller dans le bleu de la mer des Caraïbes pour oublier le noir. Le noir de mon âme, hein, pas le noir mon grand-père. Il avait un prénom. C'est dingue quand même le pouvoir de l'enfance. Il y a des choses tellement ancrées que toute ton expérience et ta raison d'adulte n'ont aucun pouvoir dessus. Ça se vérifie très bien avec les phobies irrationnelles, par exemple. Mon père, nous, il nous disait tout le temps pour rigoler, vomir, c'est mourir. Tout le temps, juste pour la rime et la formule. Vomir, c'est mourir. Sauf que 27 ans plus tard, qui a peur de vomir? Hein? Devinez qui prend du Vogalib avant de faire de la trottinette? Eh bah, c'est 3 enfants, sans exception. Ma grand-mère, elle a une peur panique des rats. Je l'ai vue une fois péter un câble devant un rat. Et maintenant, j'ai peur panique des rats. Et j'habite à Paris. Donc, laissez-moi vous dire que ça sursaute souvent. Tellement souvent que je vais finir par vomir. Donc, mourir, c'est infini. Et à chaque fois, je me dis, putain, quoi. Mais si mes ancêtres, ils avaient eu la phobie des granolas et des féculents, est-ce que vous imaginez le corps que j'aurais aujourd'hui? Franchement, que de regrets. Génial. Mais c'est peut-être aussi ça, devenir adulte. Bonne nuit.
Merci Morgane Gany. Alexis Roussillon a beaucoup aimé le passage sur les dates tartare. Hein. Dès qu'on parle bouffe,
les saucisses.
Et le 6 mai, Morgane sera à Nice.
Tahar Benjelloun, avec la couleur des mots et surtout on rentre dans le processus de création de la peinture, de l'écriture, de votre travail. Les deux ont un lien vraiment intime pour vous, le dessin, la peinture et l'écriture.
Ben, c'est une
chaque peinture peut avoir ses phrases qui vont ou ses poèmes qui vont avec.
Il y a des toiles où j'écris dedans, à l'intérieur de la toile, et des toiles où j'écris sur le cadre des poèmes.
Mais parce que l'un a besoin de l'autre pour exister.
Non, pour justement rappeler que finalement les deux peuvent aller ensemble et que l'un peut susciter des émotions différentes. Je me souviens d'une exposition, c'était à Dubaï. Il y a une dame qui il y avait un poème dans une toile, un poème, et ça l'a beaucoup ému et s'est mise à chialer. Je peins pas pour faire pleurer les gens quand même.
Non, mais vous peignez pour faire.
Mais quand même, ça m'a sidéré.
Tu as marché sur un truc.
Ça m'a sidéré.
Mais vous peignez pour créer des émotions. Vous ne maîtrisez pas les émotions qui seront.
C'est-à-dire que je peins pour amener un peu de lumière, un peu de joie, un peu, parce que mes textes, mes livres sont sur des choses un peu tristounées quand même, la solitude, les migrations, la condition de la femme, tout ça, ce sont des sujets graves. Au bout de 50 ans.
Un peu de lumière, un peu de couleur avec la peinture.
Voilà, avec la peinture.
Est-ce que la création, la liberté est la même quand vous peignez que lorsque vous écrivez?
Alors, l'écriture a besoin d'une rigueur absolue. On peut pas rigoler. La peinture, on peut être instinctif et aller dans le sens qu'on veut, mais il faut qu'il y ait une cohérence interne de la toile.
Et le paradoxe, c'est qu'il y a un cadre quand vous peignez, qu'il y a des limites à ne pas dépasser, alors que dans un roman, il n'y a aucune limite.
Ah bah ça dépend.
Vous dites qu'il y a une rigueur.
Il y a une rigueur, c'est-à-dire que
vous pouvez pas dépasser de la page, oui. Mais il y a une.
Non. Quoi? Je veux dire, il y a une rigueur intrinsèque.
J'entends. Mais il y a la liberté de penser, la liberté de créer, et vous pouvez commencer un roman sans savoir où vous allez aller finalement au bout du roman, alors qu'une toile, elle est quand même limitée déjà dans son espace, limitée dans les choix que vous faites du procédé de peinture, non?
Pour le roman,
c'est matériel.
Oui, pour le roman, il y a une liberté. C'est-à-dire que le matin, quand je me mets à travailler, je ne sais pas ce que je vais faire.
Non, nous, c'est pareil, nous.
C'est formidable.
C'est pareil.
Et même pendant, c'est parce que ce n'était pas si drôle, Leïla.
Nous, c'est pareil.
Mais pour la toile, je la visualise avant.
D'accord.
Je visualise. Okay. Quand même. Mais ça ne veut pas dire que ça va sortir exactement ce que j'ai vu dans ma tête.
D'accord. La couleur des mots, Tahar Ben Jelloun, aux sources de la création, on va continuer d'en parler avec lui, mais tu prêteras ton kiwi quand même.
C'est la montée de spiritisme.
C'est ça. Elle est, oui, oui, elle est là, elle est très.
Elle est heureuse.
Non,
elle est
heureuse. Je vais bien.
Mais un peu au bord quand même.
Voici Alexis Lorenzignol.
Et bonjour.
Bonjour
à tous.
Ça va, t'as toi ?
Ça va, les vedettes ?
Oui.
Le showbiz, tout ça. Vous me raconterez un jour. Hein. Il y a 15 jours, je vous ai raconté mon déménagement, seul. Bien, cette semaine, je vais vous raconter mon emménagement, seul.
Super.
Toujours. Je fais un peu de teasing, vite fait, pour les prochaines semaines.
Ah non, bien.
Je compte décliner mes aventures, un peu comme Martine. Donc, la semaine prochaine, je vais faire Alexis découvre le quartier. Ensuite, Alexis choisit son nouveau médecin traitant. Alexis envoie Hot au 61-14 et découvre les coins chauds de son quartier. Il envoie Weed au 61-23 et rencontre l'herboriste du quartier. Normalement, je tiens jusqu'à la fin de saison avec ça. Non, mais c'est un truc qu'on néglige quand on déménage, c'est son corollaire, l'emménagement. Et j'avais jamais emménagé dans un appartement non meublé. Ben, 15 jours plus tard, le non meublé, c'est toujours un non meublé. Oui. L'ancien occupant a laissé une chaise en partant. Je passe mon temps assis dessus, à contempler le vide qui m'entoure et à écouter les échos de ma propre voix. C'est sympa ici, c'est sympa ici, c'est sympa ici. Ça manque un peu de meubles quand même, ça manque un peu de meubles quand même. Voilà, c'est terrible l'absence de meubles. Quand les gens m'appellent, j'ai toujours l'impression que je suis dans mes chiottes. Quoi. Donc je suis là, je regarde, je prends des mesures avec mes bras. Merci. Ou en faisant des grands pas, après je vais dans des magasins, mais il y a trop de choix, j'hésite, j'achète rien, je prends les catalogues en me disant « tu choisiras à tête reposée », je rentre chez moi, j'ai rien pour reposer ma tête, je choisis pas, j'ai mis 20 minutes à acheter un séchoir à assiette, et il y avait deux modèles, quoi. J'ai trop de temps libre, hein. Faut vraiment me donner une autre chronique. Hors antenne, si vous voulez, je m'en fous, hein. Juste pour m'occuper, quoi. En fait, je me rends compte que j'ai pas du tout la compétence ameublement. Ni même petits achats. Ma mère m'a donné 3 couteaux, 3 fourchettes et 3 cuillères pour les premiers jours. Et franchement, j'envisage pas d'en acheter d'autres, quoi. Si des gens viennent, je leur dirais, apportez les vôtres. Voilà. En fait, acheter des trucs, ça m'angoisse. J'ai l'impression de me sédentariser, de me mettre des boulets aux pieds. Parfois, je me demande si j'étais pas fait pour le bouddhisme. Mais je suis pas assez souple. La position du lotus, je la tiens qu'allongée. Et sur la chaise, c'est pas évident, quoi. En plus, acheter des trucs, ça me fait penser au prochain déménagement. Et je me dis, mais tout ça, ça va être à moi après. Et ça va être chiant à déménager seul. Donc, j'arrive pas à me décider. Je suis là, une table de cuisine. Est-ce que t'en as vraiment besoin?
Mais oui.
Il y a des pays où les gens mangent par terre. Un canapé, est-ce que t'en as vraiment besoin? Il y a des pays où les gens s'assoient par terre.
Oui.
Ça fait 15 jours que je vis comme un Indien. Voilà. Je vais pouvoir bosser dans une cuisine dans un resto. Le lit, j'ai mis une semaine avant d'acheter mon lit. J'ai dormi sur mes vêtements la semaine dernière parce que j'arrivais pas à me décider.
Et tu les as mis ce matin?
C'est là que je me suis dit qu'avoir une doudoune, ça serait pas un luxe. Non mais c'est pas facile d'acheter un lit. Je suis allé dans un magasin, le vendeur m'a dit « Vous êtes plutôt matelas ferme ou matelas moelleux ?» J'ai dit, je sais pas, je me suis jamais posé la question. En général, je prends le lit qu'il y a quand j'arrive et je le prends comme il est, avec ses qualités, ses défauts, quoi. Il y a plein de choses comme ça où j'ai pas d'avis tranché. Le produit vaisselle, fraîcheur citron ou menthe? Je sais pas, je suis capable de bloquer 5 minutes devant des produits vaisselle. Je me fais des scénarios, est-ce que le citron va pas énerver un petit peu, voilà. À la longue, remarque, la menthe, c'est intense aussi. Tout ça est vrai, je souffre dans les magasins. Alors le vendeur de matelas me dit, c'est mieux, le mieux c'est d'essayer. Vous avez déjà essayé un matelas devant quelqu'un? C'est super gênant, tu sais pas si tu dois fermer les yeux et faire un peu semblant de dormir ou les garder ouverts parce que t'es dans un magasin, il y a un mec qui te regarde, quoi. Donc c'est pas facile, je me suis allongé devant lui, il me regardait, j'ai dit je suis désolé, j'ai pas trop sommeil, je suis venu un peu tôt peut-être. En plus, quand tu testes un lit en public, tu te mets pas vraiment dans la vraie position de sommeil. Chez moi, je m'endors pas sur le dos. Ma position pour m'endormir, c'est un chien de fusil avec une main dans la culotte. Et tu peux pas faire ça devant un vendeur.
Une culotte.
Ça va bien surtout.
C'est gênant. 30 secondes, il me dit « Alors ?» Ben, je lui dis « Je sais pas, la nuit a été un peu courte, quoi. » Finalement, j'ai pris un matelas que je peux tester pendant 100 jours.
Ah, super.
Et s'il me plaît, je peux le renvoyer. Évidemment, je vais jamais le renvoyer. Ouais. Qui, au bout de 100 nuits, ose dire « En fait, non. » Voilà, entre la 95e et la 96e nuit, j'ai senti que ça le ferait pas. C'est comme si, aux 3/4 d'une andouillette dans un resto, tu disais « En fait, je vais partir sur du poisson, quoi. » Donc voilà, mon problème, c'est l'indécision. Et j'ai lu dans un article de psychologie qui dit que ne pas décider, c'est vouloir garder un sentiment de toute puissance envers les choix qui nous sont offerts.
Et ben voilà.
En gros, en ne décidant pas, les gens indécis se gardent ouverts toutes les possibilités. Et ben c'est super ça, j'ai encore le luxe de pouvoir choisir des chaises, une table, une sortie de bain, un tire-bouchon, un paillasson. Et en échange de ce luxe, ben j'ai juste pas de chaise, pas de table. J'ouvre les bouteilles en poussant le bouchon à l'intérieur avec le manche d'un de mes trois couteaux. Je glisse en sortant de la douche et je m'essuie les pieds sur le paillasson du voisin. Elle est pas belle, la vie? Et surtout, je déçois personne, quoi. Parce que selon l'article, en plus, les gens indécis sont des gens qui manquent de confiance en eux et qui préfèrent ne pas prendre de décision plutôt que d'opter pour quelque chose qui pourrait ne pas plaire à leur entourage. Voilà, c'est ça mon problème. J'ai peur de décevoir des gens qui m'ont même pas aidé à déménager et que je peux même pas inviter à venir chez moi puisque j'ai qu'une chaise. Donc à moins qu'on soit quatre et qu'on la retourne, enfin bref. Allez, bonne journée, monsieur.
Allons, pas de chaise, pas de tape, pas de chute. Ok, d'accord. Alexis Le Rossignol.
Mais c'est de la poésie. Hein.
C'est vrai. Mais c'est un poète,
parce,
Alexis.
Parce que la poésie, c'est pas uniquement des vers, c'est aussi une façon de voir le monde.
Un état d'esprit.
Ouais.
Merci, merci Alexis, vraiment.
Mais de rien.
C'est très bien.
Alexis qui est en spectacle.
Ouais, la poésie d'Alexis, le 30 avril à Aix-en-Provence, les 19 et 20 mai à Bruxelles, et tous les dimanches à Paris.
La musique est très importante, vous avez découvert la musique par la radio,
la radio
le rock et le jazz, c'est ça?
Ouais.
Et la voix de Louis Armstrong.
Boy, grab your coat, grab your hat.
Alors on va évoquer justement la musique dans votre vie, Tahar Ben Jelloun. Éric Delpont, qui est responsable du musée de l'Institut du Monde Arabe, IMA, comme vous l'écrivez dans votre livre, et qui a notamment organisé l'exposition de vos toiles, qui avait eu lieu, c'était en 2017-18.
2017-18, oui.
Sera avec nous tout à l'heure pour parler justement de Tahar Ben Jelloun, le peintre, et la manière dont vous avez été... par moments méprisé par des artistes marocains. Enfin, il y avait un petit côté suffisant.
Bah, ils se disent, qu'est-ce qu'il, celui-là, bah, il veut tout. Il est écrivain, il est partout.
Pour qui se prend?
Voilà, il vient nous gêner, quoi.
La musique, donc, Tahar Ben Jelloun, vous écoutiez, vous l'évoquiez tout à l'heure, à Tanger, vous écoutiez Paul Anka. Qu'est-ce que c'était bon, ça? I'm so young, young and you're so... C'est ça, hein? You're so young, I'm so old. En plus, c'est une histoire d'amour avec une jeune fille de 15 ans.
Ouais.
Enfin, il est honnête, au moins, il dit.
Oui,
c'est déjà ça.
Oui. Mais à l'époque, il pouvait chanter. Là, maintenant, c'est pas possible.
Il était aussi très jeune, aussi, à l'époque, lui.
Ouais. Bien sûr.
Il avait 20 ans.
On est en 55, vos parents s'installent à Tanger, comme vous l'avez expliqué. Tout d'un coup, c'est la civilisation qui s'ouvre, c'est la modernité.
Le 20e siècle.
C'est le cinéma, les voitures américaines.
L'électricité, l'eau courante.
Non, les voitures américaines, vous alliez renifler
celle de votre oncle,
c'est ça?
De votre oncle.
C'est le voyage.
Ouais.
Si tu sens l'essence, c'est le voyage, c'est magnifique ça.
Et le cinéma, vous alliez où à Tanger au cinéma?
Il y avait deux cinémas.
Il reste toujours la Cinémathèque.
Ça, c'est nouveau, ça.
Ça, c'est plus récent.
Non, non,
c'est
récent. L'Alcazar.
L'Alcazar. Qui vient d'être restauré.
Alcazar.
C'est autre chose.
Non, non.
C'est d'autres couleurs. C'est plus Alcazar. Orange. C'est là où tu vas finir.
Et il existe toujours. La façade existe toujours de l'Alcazar.
Ils l'ont restauré, oui. Ils l'ont restauré. Le Capitole a disparu parce qu'il est devenu un café. Mais il y a tous les autres cinémas qui sont en train d'être restaurés, le Lux, le Roxy, le Goya, etc.
Ouais. Et vous y allez souvent, encore aujourd'hui, à Tanger?
Non, à Tanger, non, je ne vais pas au cinéma, ni à Tanger, ni à Paris d'ailleurs.
Pourquoi ça?
Bah oui, pourquoi?
Parce que le cinéma d'aujourd'hui ne...
Alors c'est étonnant, vous racontez dans le bouquin que le cinéma d'antan avait du sens et qu'aujourd'hui, le cinéma,
j'ai
c'est plus vraiment du cinéma.
Les anciens films.
Ouais, mais pourquoi le passage à la modernité en termes de cinéma, ça n'a pas fonctionné
parce
sur
que
vous.
Le cinéma a un petit peu disparu, il a été remplacé par des séries que j'aime beaucoup, que je regarde aussi.
Non, mais il y a du cinéma,
il y a des films.
On va au cinéma toutes les semaines, donc il y a des films qui sortent.
Oui, il y a quelques films.
Non, il n'y a jamais eu autant de film, Tahar Ben Jelloun.
Oui, pourquoi vous êtes sévère comme ça sur le cinéma?
Ça m'a étonné, je me suis dit, tiens...
Parce que moi, j'ai pas envie de retrouver la vie quotidienne. On parle comme dans un bistrot, dans un cinéma. Moi, je vais aller dans un cinéma où on me raconte des choses incroyables, des mensonges.
Le réalisme, c'est pas ce qui vous plaît au cinéma?
C'est pas du tout.
Ouais. C'est-à-dire que le cinéma a une résonance particulière sur votre vie. Vous nous avez raconté que c'est à cause du cinéma que vous avez eu la phobie de l'avion.
Pas tout à fait. L'avion, non.
Il n'y a rien de juste, hein, Nagui, aujourd'hui, dans l'émission. Il n'y a pas une dedans.
C'est tout à côté,
Nagui.
Il n'a jamais pris l'avion.
En bowling, c'est gouttière à chaque fois.
J'ai raté mon premier avion.
Voilà, vous n'avez pas pu rentrer parce que vous pensiez qu'on prenait l'avion comme on prend un train.
Un train, voilà, exactement.
Ah oui, c'est
en
ça.
Marche.
Ah, mais je l'ai lu.
Je sais que vous avez lu.
Et vous avez dormi dans l'aéroport?
Absolument. Exactement.
Et le sandwich était bon. Alors, on l'a tous lu, voilà. Franchement.
Oui, l'hôtesse m'a fait un sandwich. Mais imaginez un gamin à l'époque, 15-16 ans, tout seul.
Martine, c'était l'hôtesse, Martine. Elle voilà, vous a fait un bisou.
Elle était super, Martine.
C'est là où le livre devient chaud, quand même.
Franchement, le bisou de Martine.
J'ai hésité à tourner la page après Martine. Je me suis dit, franchement, je pense que je suis au climax.
C'était trop sexuel. Ouais.
Il ne s'est rien passé.
Mais pourquoi?
Parce que le sandwich était bon.
J'étais traumatisé, mon cher. J'avais mal à la tête.
En 70, vous découvrez Jacques Brel.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent.
Là aussi, il y a des couleurs. On écoute Brel, on voit des images.
On n'a pas retrouvé cette voix, cette poésie. Jacques Brel est un génie. Il m'accompagne toujours.
Et là, on est en 70, oui, on est en 70 à Casablanca.
Vous êtes à Casablanca, vous enseignez au lycée Mohamed V.
Oui.
Et c'est aussi l'année de la publication de votre premier recueil, Tahar Ben Jelloun.
Oui.
Homme sous linceul de le silence.
Oui.
C'était de la poésie, c'était quoi? C'était un grand recueil? Il y avait un...
Non, c'était des poèmes que j'avais rassemblés après avoir passé 19 mois dans un camp disciplinaire de l'armée. J'étais en prison militaire. Et j'écrivais des poèmes en cachette, et lorsque j'ai été libéré, je les ai réunis, et ça fait ce petit recueil.
C'est ces textes-là que vous avez gardés pour tenir le coup, en fait. L'écriture a été une forme de...
L'écriture, et en cachette en plus, parce qu'on ne savait pas si un jour nous allions être libérés.
Quel était votre rapport à la langue française?
J'adore toujours la langue française, parce que c'est une langue étrangère pour un enfant qui a appris l'arabe d'abord et le français ensuite.
C'était aussi la langue
de la transgression.
Exactement. C'est-à-dire que tous les interdits venaient de la France.
Non, mais en plus, je pouvais écrire des choses que mes parents n'allaient pas lire. Et mon premier roman, il y a des choses que j'ai dites en français que j'aurais pas pu écrire en arabe. Et donc, pour moi, c'était la langue de la libération, la langue de la liberté, la langue de l'imagination absolue, alors que la langue arabe est magnifique et formidable aussi. Mais comme c'est la langue du Coran, c'est plus difficile d'aborder certains sujets.
Oui, c'est aussi la langue de la domination.
C'est ça, des colons.
En Maroc, c'était un protectorat.
C'était colonie en Algérie.
On pouvait avoir un regard sur les voisins, quand même.
Oui, les voisins, absolument. Mais c'est pour ça que Kateb Yassine parle du butin de la guerre.
Bien sûr. Ouais.
La langue française, c'est le butin de guerre que Kateb avait signalé. Mais en même temps, la langue française vit très bien grâce à tous ces apports et des Maghrébins, et des Belges, et des Suisses, et des Québécois, etc., et des Africains. Et c'est une langue qui est beaucoup plus défendue aujourd'hui par les étrangers que par les Français eux-mêmes.
Ouais.
En 1984, vous écoutez cette sublime chanson, mais qui est une poésie de Pierre Perret.
Elle est ma beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous.
Moi, c'est l'une des chansons qui me fait pleurer, cette chanson,
magnifique.
Parce que l'histoire est incroyable et tristement toujours d'actualité.
Oui, toujours d'actualité. Ouais. Alors on se dit parfois, si on enlève au parti d'extrême droite deux thèmes, l'islam et l'immigration, il ne restera rien. Ils feront leur campagne avec quoi? Avec le pouvoir d'achat, c'est tout.
Oh, avec la culture, avec l'économie.
Mais pas de culture.
Avec la joie de vivre. Non, je blague. Je sais que c'est
d'accord, ok.
C'est mort, la culture.
Ouais, je sais.
La culture avec un K.
Elle était pas bonne.
Et okay, là ce sont des thématiques qui ne sont pas que utilisées par l'extrême droite.
C'est terrible, parce qu'il sort l'immigration comme pour faire peur aux gens. Ok, très bien. On va faire un truc. Que tous les immigrés demain posent leurs affaires et s'en vont. Ils rentrent chez eux. Mais la France sera bloquée. Il y a 13 000 médecins en France, maghrébins. 13 000.
Non, mais déjà, si on parle des artistes, si ceux qui sont nés en dehors du territoire français s'en vont,
les médecins,
Alain Souchon s'en va, Daniel, ils s'en vont.
Enfin, il y en a plein, tous les humoristes.
Il y en a plein qui s'en vont, c'est ça.
Les médecins.
C'est moins grave.
les médecins, ça va pas, non.
On préfère les médecins, pardon, à choisir, je prends un médecin.
Mais qu'ils arrêtent de nous faire peur. Qu'ils arrêtent de faire peur aux gens avec l'immigration.
Oui, pardon, c'est pas nouveau, ce sentiment de l'étranger, de l'inconnu.
Nagui, retourne chez toi, c'est ça?
Mais oui, c'est ça. Mais
j'ai tué né en France.
Mais je continue.
Ah, je suis d'accord avec vous.
C'est bien.
Non, c'est vrai.
L'Égypte est accueillante. Hein.
Des retours de chez toi, j'en ai plein.
Ouais. Non, mais c'est pas l'immigration ou la notion de sécurité, c'est quand même un thème qui a été abondamment exploité par des mouvances politiques et qui ne sont pas nécessairement d'extrême droite. On découvre pas le poteau rose là aujourd'hui.
Non, mais il se base là-dessus pour faire peur aux gens et pour qu'on vote pour eux.
Oui, mais on fait peur aux gens depuis très longtemps. La notion de sécurité.
Il y en a marre.
Non, mais la sécurité, c'est quand même une thématique qui est utilisée
Ce ne sont pas les immigrés qui vont tabasser les gens dans la rue.
Mais je suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire que c'est une thématique qui existe depuis tellement longtemps, en fait. Oui. Tellement longtemps, et qu'on s'y habitue depuis tellement longtemps, et que les gens votent aussi en fonction de ça depuis tellement longtemps.
Je reviens à Pierre Perret, Lily, c'est ça, voilà. C'est formidable.
On est en 84 et vous publiez l'Hospitalité française.
Exactement.
C'est essai sur le racisme en France qui a été assez mal reçu en
réalité. Très mal reçu, il y a des libraires à l'époque qui ont refusé de le vendre.
Carrément.
Parce que ça commence par l'assassinat d'un gamin de 11 ans par un bof qui faisait la sieste et le gamin jouait dans la cour. Il a sorti son fusil de chasse et il l'a tué. Et ça commence par ça. C'est ça, le livre, l'Hospitalité française. C'était une façon ironique de parler de cette hospitalité meurtrière. Mmh. Et ça a été très mal reçu parce qu'à l'époque, c'était normal de tuer ou de tabasser des Maghrébins. Mmh. Moi aujourd'hui.
Ça c'est une fiction.
Pardon.
Ça c'est une fiction. Vous avez inventé.
Pas du tout.
Ça c'est un fait réel.
Non, le livre commence par la liste des immigrés assassinés pendant une année. Mmh. Et c'était le rapport de police. C'était pas un truc que j'ai inventé. Et cette liste elle est longue. Il y a à peu près 160 personnes qui ont été assassinées, qui sont mortes du fait d'attaques. Il y en a qui ont été balancées dans la Seine, il y en a qui ont été balancées d'un train, etc. Ouais. Et ça a choqué les gens.
Pourquoi ça a été mal reçu comme bouquin? Alors,
c'est factuel. Dans les années, si je m'abuse,
84,
donc c'est touche pas à mon pote aussi.
Bah justement, SOS Racisme. Roger Hanin même a fait un film sur le pauvre Algérien qui a été jeté du train. Et pour dire qu'il y avait une violence banalisée à l'époque.
Et pourquoi vous expliquez que des libraires n'ont pas voulu vendre le livre?
Il y a deux ou trois couillons, mais c'est parce que de toute façon il y a toujours des. Mais oui, parce que il y a quand même, il n'y a pas que des libraires sympas et de gauche, il y a aussi des libraires de droite et d'extrême droite, ça existe. Mmh. Mais pour moi, la culture, l'écriture, le livre doit être quelque chose d'humaniste et qui doit être respecté partout.
Bien sûr.
Justement, votre livre s'appelle « La couleur des mots », le lien est évident entre l'écriture et la peinture. Et c'est justement Tahar Benjelloun, le peintre, dont nous allons parler maintenant avec Éric Delpont. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes responsable du musée de l'Institut du Monde Arabe et de l'exposition des œuvres de Tahar Benjelloun qui avait eu lieu en 2017-2018. Comment avez-vous découvert le peintre Tahar Benjelloun? C'est un travail d'agent. C'est quelqu'un qui vous contacte en disant vous devriez regarder ces toiles. Comment se fait la connexion?
Non, l'idée était partie d'une carte blanche donnée à Tahar Benjelloun, à la fois en tant qu'écrivain et en tant que...
Un monochrome, donc.
Et en tant que peintre.
J'étais sûr qu'elle
passerait
pas celle-là. Non, j'étais sûr.
Mais là, c'est la journée. Hein.
Ouais, je sais.
Il n'y a rien qui va.
Non, je sais.
Si vous pouviez dire juste oui une fois à Nagui, ça ferait sa journée. Parce que là,
tout le monde me dit non. C'est... On parle de peinture, carte blanche, monochrome. Je me suis dit, ok, pointu. Ah, ça ne passe pas.
C'est vendredi, n'est-ce pas?
C'est ça.
La fin de la semaine.
Comment définir, on parlait tout à l'heure de ces émotions de joie, de vitro aussi, dans le travail de Tahar Benjelloun. Comment le définir? Est-ce qu'on est plus proche de Matisse, d'un mouvement naïf,
Naïf, je ne dirais pas ça, non. Mais en revanche, une quête de la couleur et de la lumière. C'est surtout la lumière qui frappe dans ces toiles et dans l'exposition que nous avions faite, qui était la première dans un musée français des toiles peintes par Tahar Ben Jelloun. C'est ce qui ressortait, c'était cette lumière et cette lumière qui appelle vers un ailleurs. Ces toiles ne décrivent pas, ne sont pas de même que son écriture ne décrit pas d'une façon réelle le quotidien. Ces toiles invitent à autre chose, c'est-à-dire qu'on s'oublie quand on regarde ces toiles. Et d'ailleurs, dans le livre, à un moment, il dit que de l'exposition, Jean-Claude Carrière lui avait dit qu'il se sentait bien au milieu de ces toiles. Et ben, c'était l'émotion que donnait l'exposition.
C'est magnifique. C'est ce qu'il a raconté dans le livre. C'est ce que vous avez ressenti devant Matisse aussi, c'est-à-dire. Et puis, lorsqu'il y a ce peintre qui regarde la couverture de votre livre en disant « Je ne connaissais pas cette toile de Matisse », et vous dites « Non, c'est moi qui l'ai peinte », et l'artiste en question, que vous ne citez pas d'ailleurs dans votre livre...
Ah, j'ai pas envie de faire de la peine.
Le prend mal, en tout cas.
Ah, il y a eu un silence terrible après. Il y a eu un silence. Bon, mais ça arrive.
Est-ce que, de la même manière que Tahar écrit ses romans, est-ce qu'il écrit ses toiles? Est-ce qu'on peut avoir une histoire?
Non, je crois pas. Non,
oublie ça.
Non.
C'est
une autre question.
J'ai une idée.
Vas-y.
Y a-t-il une exposition en ce moment à l'Institut du monde arabe?
Non.
Ah oui. Lesquelles?
Une sur l'Algérie, quand même.
Alors, à l'occasion des 60 ans de la signature des accords d'Évian et de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, il y aura toute cette année à l'Institut différentes expositions en lien avec le pays. Actuellement, deux sont présentées, Kamel Daoud et Raymond Depardon. Une rencontre entre le photographe et l'écrivain, à 40 ans de différence entre les années 60 et aujourd'hui. Et une autre exposition...
Oui, avec des photos en noir et blanc.
Et des photos en noir et blanc, oui, absolument. Oui.
Voilà. Ah, ouais. On peut garder
50 minutes d'émission.
La 51e.
Et l'autre exposition, Algérie mon amour, les peintres de la fraternité algérienne, rencontre justement de cette scène artistique où se sont mélangés les peintres qui vivaient en Algérie, quelle que soit leur origine.
Est-ce qu'il y a une famille de la peinture arabe ou du monde arabe? Est-ce que c'est un style? Est-ce que vous parlez justement de lumière et de couleur? Est-ce qu'il y a une signature, une patte de la peinture arabe?
À l'Orient, c'est la lumière. Et c'est ce que les peintres occidentaux sont partis chercher dès le 19e siècle. Et c'est vrai que cette lumière baigne. Quand bien même artistes ont traité...
Il y a des toiles peintes à Trouville, à Deauville, sur la lumière aussi.
Oui, bien sûr. Mais c'est une lumière différente.
Et Turner, et les couchers de soleil de Turner, moi aussi.
Magnifique.
Je suis bouleversé par ces toiles-là, comme vous le racontez dans le livre.
Oui, ça,
c'est
bien,
c'est une lumière incroyable.
Oui.
Et ce dont vous parlez, c'est l'orientalisme, hein?
Pas nécessairement.
Je me sens proche de toi.
Matisse n'est pas véritablement considéré comme un orientaliste.
Oui.
On va qualifier d'orientalisme des sujets plutôt que des manières de traiter.
Oui, des scènes de hammam, femmes,
des scènes de harem,
le vendeur de tapis,
Kalangi.
Oui, mais pardon, on tombe dans des clichés aussi quand on fait ça.
C'est des clichés de peinture, de toute façon, c'est des thèmes récurrents en peinture, donc qui sont souvent développés, comme les natures mortes. Quoi.
Vous avez régulièrement des ventes publiques d'art orientaliste, et c'est les mêmes sujets qui sont reproduits ad nauseam.
Il y a eu une vague à la mode à ce moment pour les orientalistes. Maintenant, il s'est un petit peu apaisé.
Aujourd'hui, l'orientalisme est très goûté dans certains pays du monde arabe.
D'accord.
Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de peintres d'Orient?
On peut remarquer un retour à la peinture, et vraiment à ce qu'on appelle de la vraie peinture, mais à côté de ça, il y a aussi l'exploitation des autres supports, comme la photographie ou encore la vidéo. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, notamment, les artistes femmes sont particulièrement efficaces dans le monde arabe.
Peinture et photo, justement. justement. Raymond Depardon, Kamel Daoud, Algérie 61 2019, c'est jusqu'au 17 juillet à l'Institut du Monde Arabe. Et Algérie Mon Amour, artiste de la fraternité algérienne, 1953-2021, c'est jusqu'au 31 juillet. Voilà qui est précisé. Merci Eric Delpont d'avoir été notre invité. Aujourd'hui, vous voici Tom Villa et le prix de la semaine. Alors, quel prix allez-vous remettre, Tom Villa ?
Aujourd'hui, on va décerner le prix de la petite galère de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sont. Première nommée, Valérie Pécresse, qui se retrouve avec une dette personnelle de 5 millions d'euros après sa campagne ratée. Et comme elle n'a pas atteint le seuil de 5% de vote, elle se verra pas rembourser ses frais de campagne. Du coup, elle a lancé un appel à la solidarité. C'est fou comment, en dessous de 5%, les gens de droite deviennent de gauche. C'est génial. Deuxième nommée, Anne Hidalgo, qui a fini avec 1,8% des voix, soit un peu plus de 600 000 électeurs en tout, quand on sait qu'il y a plus de 2 millions d'habitants à Paris. Pardon, c'était même pas ça la vanne. Non, il y a l'ancien premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis qui propose au PS de s'auto-dissoudre. Si je peux me permettre, les électeurs s'en sont déjà occupés, c'est bon, c'est réglé. Et troisième et dernier nommé dans la petite galère de la semaine, voyager quand tu es sosie du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Mais non,
c'est pas une vanne, c'est bel et bien arrivé à Oumid Isabayev. Désolé si j'ai écorché son nom. Ce monsieur qui a dû avoir un gros coup de chaud là. C'est sûr que ça aurait été plus simple de voyager si t'es sosie de Carlos Ghosn. Ça c'est sûr que c'est mieux. Ça c'est, on va pas se
le
cacher.
Mais il a eu un problème le Oumid.
Et le grand gagnant dans la catégorie de la petite galère de la semaine,
Oumid.
C'est le sosie de
Mais
Zelensky.
Non.
Ah si. Alors, on a appris il y a quelques jours que le sosie de Zelensky a fui l'Ukraine. C'est vrai que là, tout de suite, je me suis dit, tiens, sosie de Zelensky, c'est vraiment le pire sosie du moment. Tu vois, je vois pas ce qui pourrait être pire comme sosie, à part si, à la limite, sosie de Pécresse est demandé un prêt à une banque, mais vraiment, là...
Russe.
La malchance du sosie de Zelensky, c'est que c'est un super sosie, en plus. Il lui ressemble vraiment. Allez voir la photo sur Internet. D'habitude, c'est vrai que sosie, bon, tu fais une nuit blanche, tu te laisses une barbe de 3 jours, une chemise crate, t'es le sosie de Gainsbourg, mais mettez-vous à la place de ce monsieur. Il y a 2 ans, c'était le sosie d'un humoriste. Aujourd'hui, c'est le sosie d'un résistant dont la tête est mise à prix par l'armée russe. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Il a réussi à fuir l'Ukraine et il a été aidé par un autre sosie, celui de Vladimir Poutine.
Mais non.
C'est une vanne. C'est
vrai. Non, tout est vrai. Tout est vrai. Et là, pareil, je trouve que le sosie de Poutine est hyper ressemblant. Même vu comment le visage du vrai Poutine a gonflé, je trouve que le sosie ressemble encore plus à Poutine que le vrai Poutine. Non, mais c'est vrai. Autant il y a 10 ans, la ressemblance entre le sosie et le vrai, c'était pas ouf. Mais aujourd'hui, c'est troublant. Et c'est rare que ça soit la star qui se rapproche du sosie physiquement et non pas l'inverse. Donc là, le sosie de Poutine a aidé le sosie de Zelensky à fuir l'Ukraine. Tout le monde est parti se cacher en Pologne. Et qui a chapeauté l'opération ?
Asseyez-vous.
Le sosie d'Angela Merkel.
Non, le sosie de Kim Jong-un. Voilà. J'aurais pas mieux cette année comme info.
C'est vrai.
Non, tout est vrai.
Tout est vrai.
Bah oui. Donc il y a le sosie de Kim Jong-un qui connaissait le sosie de Zelensky. Il était intervenu tous les deux dans un documentaire sur les sosies de politique. Et quand la guerre a éclaté, il s'est dit que son ami était en danger. Et il y a le faux Kim Jong-un qui a contacté le faux Poutine pour aller aider le faux Zelensky. Je trouve ça fascinant les sosies. C'est vrai, déjà ça part toujours... De l'extérieur, il y a fatalement un copain qui dit, tiens, t'as des faux airs de machin, tu vois. Après, c'est à toi de voir si t'as envie de rentrer dans le jeu ou pas. Après, faut assumer. C'est vrai que sosie, en plus, un métier où soit c'est pour rendre hommage, soit c'est pour se foutre de la gueule du mec, tu vois. Un sosie de Johnny, c'est pour rendre hommage. Et quand t'es sosie de Kim Jong-un, qu'est-ce que tu fais, tu vois. En plus, faut accepter de lui ressembler. Ça veut dire que le sosie de Kim Jong-un, il accepte d'avoir la même coupe de cheveux de merde tous les jours. C'est beau, tu vois. Et puis, faut choisir la bonne star. Faut avoir de la chance qu'il y ait la bonne actu aussi. Pensez à ce monsieur qui était sosie de Jean-Michel Blanquer. Avant ses vacances à Ibiza, le mec avait pas trop de boulot, tu vois. Plus quand t'es sosie de Jean-Michel Blanquer, dès que tu passes devant un collège, un lycée, tu te fais insulter. Heureusement que les sosies sont plus sympas que les vrais. C'est comme en ce moment, il y a la sosie de Marine Le Pen, on la voit partout. Physiquement, c'est hyper bien fait. La voix, c'est pas mal. C'est pas le même timbre. C'est plus doux, c'est plus posé. C'est vrai que l'original est un peu plus cash, plus caverneux. Alors là, par contre, les textes sketch sont pas très très bons. Pas un sketch sur l'immigration, pas un sketch sur la peine de mort. Une famille, c'est un papa plus une maman, elle l'a perdu. Le sketch sur l'Europe, c'est pas si mal. Non, pas très marrant. Bon, bref, si je peux me permettre quand même, méfions-nous des sosies ces temps-ci.
Merci, Tom Villa. Comment il s'appelle déjà le sosie? Mais ils ont pu fuir.
Donc
et
là,
tout
c'est
bien.
Bon, ils sont en Pologne.
Ils sont protégés.
Ils sont protégés, ils sont en Pologne. Après,
quand t'as la Russe derrière toi, est-ce que t'es vraiment protégé?
Non, non, mais c'est totalement dingue, cette histoire.
Ah, non, non,
surtout, j'avais du mal à croire que les trois,
ah, non, mais c'est
soient, grande famille.
Soient copains les uns avec les autres.
Il s'appelle Oumid Isabayev.
Voilà. Il faut éviter de parler sèchement à Oumid, évidemment. Tahar Benjelloun, la couleur des mots, on va continuer d'en parler avec vous jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, Tanguy Pastureau, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler de Brooklyn Beckham, le fils de David Beckham. Il s'est marié. Alors, c'est comme le mariage de votre petit-neveu, mais avec de l'argent.
Tiens, à propos du football, vous parlez pas beaucoup du football? Alors que le foot au Maroc, en Algérie, c'est une passion.
C'est une passion, mais je suis pas très passionné. Donc c'était pas.
Oui, mais le sport peut être justement une solution par moment pour éviter.
Non, mais là c'est non.
Ok, d'accord. Je ne vais même pas insister. Tahar Benjelloun jusqu'à midi et demi.
Et c'est pas sûr.
Avec nous, on se retrouve après les infos. C'est la bande originale avec Lina Katoumouzoui, Morgane Grignan, Alexis Rossignol, Tom Villard, Tanguy Bassureau, Daniel Morin et notre invité Tahar Benjelloun. Avec cette couleur des mots, alors beaucoup de mots vous racontez, mais également des dessins, des toiles que vous présentez à la fin du livre. Il était important pour vous que le livre soit aussi un peu illustré?
Tout à fait, oui, bien sûr. C'est vers la fin, ils ont fait un peu un choix différentes époques.
Est-ce que vous dites, j'aime m'arrêter un long moment devant une toile et la regarder, vous parlez de toutes les toiles, quelles qu'elles soient, ou des vôtres en particulier?
Non, je parle de quand je visite une galerie ou un musée.
Est-ce qu'il y a des toiles qui, entre guillemets, ne vous font rien, c'est-à-dire aucune émotion, qui vous laisse totalement indifférent?
Il y a de tout.
Ça arrive.
Non, mais je m'arrête devant des toiles qui m'intéressent. Et je me souviens la première fois où je suis allé au Prado, à Madrid, j'étais scié devant la toile de Goya, le chien. Mm-hmm. C'est une des toiles les plus extraordinaires au monde. C'est tout simplement le musée d'un chien dans une toile d'une couleur beige, orange, comme ça. Et puis c'est tout. Il y a une émotion extraordinaire qui se dégage de cette toile. Ça m'a beaucoup ému. Et après, évidemment, il y a eu Giacometti. Alors, Giacometti, si vous voulez,
les sculptures avec en tête d'épingle, c'est ça. Avec l'homme qui marche.
Il rejoint un peu mes personnages dans ce que j'écris. Mm-hmm. C'est-à-dire des personnages désemparés, dépouillés de tout, et qui se promènent dans des rues pour une seule personne.
Et ce qui n'est pas figuratif, ça peut vous émouvoir aussi?
Bien sûr. Ce que je fais n'est pas figuratif du tout. Mais bon, Tourneur, c'est pas très figuratif, mais enfin, c'est des
quand
couchers
même.
De soleil.
Ah, si, oui, bah, si. Oui. Non, je sais pas, dans l'art contemporain, est-ce qu'il y a, ou dans l'art conceptuel, des œuvres comme ça, peut-être qu'on pourrait identifier, qui
déjà,
ont pu vous émouvoir?
Le monochrome de Klein, le bleu de Klein.
Ah, Klein, c'est magnifique, oui, bien sûr.
Non mais vous, apparemment le bleu semble être votre couleur.
C'est ma couleur. Mais par exemple, le bleu majorel, c'est pas mal non plus. Mm. À Marrakech...
Non mais là on est sur quelque chose de peut-être plus évident, de plus... je sais pas, on parle toujours de Jeff Koons par exemple, avec cet édifice
à Paris. C'est pas mon idole.
Voilà. Je sais pas, on parle d'un Marcel Duchamp quand on veut parler vraiment de choses un petit peu plus conceptuelles ou qui ont été un peu
mouvement. Non, je suis resté à des peintres qui m'ont fait pleurer, comme Van Gogh.
D'accord.
Non, c'est des gens...
Puis c'est l'histoire de Van Gogh aussi qui vous a touché, quand vous l'avez découverte.
Et ses lettres à son frère Théo. J'arrive pas à voir... Aujourd'hui, il y a des artistes qui sont d'avant-garde, comme on dit. J'arrive pas à adhérer.
D'accord.
C'est comme ça.
Oui, c'est pas...
La couleur des mots, Tahar Benjelloun, on continue avec vous jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pastureau.
Alors ce midi, je vais vous parler des ultra-riches. Alors globalement, ils vont bien. Dans le monde, sachez-le, il y a 2668 milliardaires et en 2021, la moitié ont vu leur fortune exploser. Alors il y en a qu'on connaît, Elon Musk, le PDG de Tesla, la bagnole la plus nulle au monde parce qu'elle est tellement silencieuse que si votre conjoint s'endort à côté, vous l'entendez ronfler comme un pourceau. On n'a pas ce problème si on a gardé sa Super 5. Bon. Et avec la sécurité qu'il y a sur la Tesla, c'est compliqué en conduisant d'ouvrir la porte passager pour pousser le conjoint sur l'autoroute. On est obligé de faire avec jusqu'au bout de sa vie alors qu'on est déjà au bout de sa vie. Ensuite, on a Jeff Bezos, hein, qui devrait s'allier avec Philippe Poutou, parce qu'un Bezos et un Poutou seraient trop cœur avec les doigts. Quoi. Deux fois plus de deux sœurs, au-delà, c'est Moltenel. Cocorico, troisième, c'est un Français, Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, hein, ce qui est un début de récitation d'alphabet pour un dyslexique. Et il y a de plus en plus de femmes à être milliardaires. Et oui, le vrai féminisme, c'est peut-être pas se laisser pousser les poils, bande de loseuses. C'est éclater les mecs au top 50 du gros ouf. Eh bah, ben, bien sûr, il y a Françoise Bettencourt de L'Oréal, la queen du jojoba, mais aussi Rihanna, nouvelle entrée dans le club des milliardaires. Elle chantait, ça lui rapportait que quick. Elle s'est dit plutôt crevée que de finir comme Madonna à 63 ans à exhiber mon boule sur Instagram. D'autant qu'à partir d'un certain âge, si un boule n'a plus vraiment une forme de boule. Moi, j'ai un début de triangle isocèle. Hein, y a que si vous sortez avec une fan de géométrie que ça passe, parce qu'elle aime vous voir évoluer. Ça fait comme un Pokémon qui serait en train de fondre. Donc Rihanna s'est dit, mais par le slip de Jésus, parce qu'elle est très croyante, je vais me lancer dans la lingerie. Elle a créé sa ligne Savage X Fenty Jackpot. Hein, ça a pris. Je sais même pas pourquoi je suis là à vous parler alors que je pourrais vendre des culottes. Pasturox, hein, ce serait des boxeurs avec écrit tout ça, nos impôts sur les fesses. Alors, je suis allé voir le site de Savage X Fenty. C'est accessible. 6 euros le boxeur. Et surtout, en modèle, ils ont pris des vrais gens avec des bourrelets, des poils. À un moment, j'ai même dit, Daniel, on peut se projeter parce que le type en photo sur les lots de slip Dim, lui ressemble à Brad Pitt. Vous, avec le même slip dans la même posture, vous êtes Jean Castex. Ah, mais moi, Macron me voit en slip et me dit, salut Jeannot, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Alors, je pars de l'hypothèse que je serai en slip à l'Élysée. Mais bon, on est dans l'entre-deux-tours. Macron a besoin de voix, ça va être serré contre un bulletin à son nom, je pense, qui peut vous faire l'amour. Hein, et si Brigitte se met à crier, mais que faites-vous en slip chez moi? Répondez, mais enfin, c'est moi Jean Castex. Bon, si moi en slip, je ressemble à Castex, 99% de la population aussi. Hein. Ah, les ultra-riches. Quelle vie ils ont. Eux, ils kiffent. Tenez, je suis tombé sur un article dans Madame Figaro, le magazine des bourgeoises à Chignan. Ça parle de David Beckham, hein, ce type très beau qui, même en slip premier prix, ne ressemblera jamais à Jean Castex. Lui, c'est un slip à l'Élysée, Macron dit salut, Gabriel Attal. Samedi dernier, Beckham a marié son fils, Brooklyn, qu'ils avaient appelé comme ça véridique parce que c'est le nom du quartier de New York où le rôti avait été conçu. C'est-à-dire que s'ils avaient été moins riches, le gosse s'appelait Auberge de Jeunesse dans le Bronx. Alors, Brooklyn a épousé sa petite amie, Nicola Peltz, une actrice de Gonzone, qu'il avait rencontré au festival Coachella, donc ivre, hein, parce que se taper sur un festival, à moins d'être backstage et d'avoir accès à Lenny Kravitz, on est sûr de finir avec un ivrogne. Moi, j'ai fait 10 fois les vieilles charrues, tous les gens que j'ai croisés sont morts. Hein, deux cirrhoses. Je me souviens y avoir vu Iggy Pop, c'était le plus sobre, hein, pour vous dire le niveau. Bref, Brooklyn a longtemps cherché une fille ayant comme prénom les Maguettes ou Chicago. Il y a un groupe qui s'appelle comme ça, mais ils sont 12 types de 75 ans de moyenne d'âge, donc ils se sentaient pas d'y aller. Donc il s'est rabattu sur Nicolas, qui aux États-Unis est aussi un prénom féminin. Ah, mais c'est un pays particulier. Parfois, vous croisez une fille magnifique dans un bar, elle vous dit « Salut, moi c'est Jean-Pierre ». Ça casse l'ambiance, hein, si vous êtes conservateur. Et là où la vie des ultra-riches diffère de celle de la plèbe, c'est que David et Victoria Beckham ont offert à leur petitot pas un vaisselle, pas un service à thé, mais une Jaguar XK 140 de 1954, valeur 420 000 euros. Vous voyez la Citroën C1 ? Donc ça n'a rien à voir. Hein, c'est une voiture de sport qui a été repeinte d'une couleur bleu clair, une teinte unique que personne d'autre ne pourra utiliser à l'avenir. Parce que Beckham, il achète la peinture et la couleur. Un jour, il va acheter le rouge, Anne Romanoff va être obligée de se produire à poil. Alors, à la cérémonie... Quoi ? Il y avait du beau monde. Les sœurs Williams, notamment. Brooklyn a demandé à Serena si elle pouvait servir cette conne à balancer la bouteille de champagne à plus de 220 km/h, ça a fait 3 morts. Il y avait aussi les Spice Girls. Forcément, Victoria faisait partie du groupe. Vous vous souvenez, le girl power, tout ça. Enfin, quand elle croisait le prince Charles, elle lui souvait à moitié le kilt. Le pauvre a passé la seconde partie des années 90, le pénis à l'air. Et puis les fringues. Alors attention, David a bigophoné à un ami. King Jones, directeur artistique de chez Dior. Moi, quand chez Jules, je demande à voir le patron, on me dit qu'il est en rendez-vous. Et ils ont fait aux jeunes, alors, un costume sur mesure. Brooklyn a déclaré, moi j'ai des épaules larges et proéminentes pour lesquelles j'ai du mal à trouver une veste adaptée. Mais ta gueule Brooklyn, un seul quartier de New York pour Bobo. Parce que cette phrase revient à dire, ouais j'ai un corps extraordinaire, c'est mon seul défaut. Donc on leur souhaite du bonheur et en même temps d'aller bien se faire cuire le croupion.
Carrément, merci Tony Bosco.
Tanguy Pastoureau qui sera en spectacle le 28 avril, mais là j'ai un bourrelet qui m'empêche de voir dans quelle ville. Marly en Moselle.
Tahar Ben Jelloun, la couleur des mots, publié chez l'Iconoclaste, où vous évoquez aussi les auteurs, ceux qui vous ont influencé, les penseurs même qui vous ont mis... ça, vous le saviez déjà, vous l'avez deviné, devant des valeurs essentielles comme celle du travail. Oui. Vous reprenez à votre compte cette phrase, je crois, de Jean Genet en disant qu'il n'y a pas de talent sans travail.
L'effort. l'effort, le travail, la
persévérance. Je me suis fait une pyramide en deux secondes, là. Je me dis, on va chercher en deux briques.
Tu peux économiser une
brique. Mais ce que vous appelez l'effort, le talent, il y a le don, celui de la peinture, du dessin, de l'écriture, et il faut travailler.
Le don, ça représente peut-être 1%, mais le reste, c'est du travail. Il y a le don, le talent, je ne sais pas comment on l'appelle, mais si on ne travaille pas, si on ne persévère pas, si on ne cherche pas, ça ne donnera rien.
Tahar Ben Jelloun, on va continuer de parler de la couleur des mots, mais il y a d'autres événements dans le monde de la culture, Leïla.
On va parler d'un musée national qui va ouvrir ses portes au Maroc. Tahar, quel sera le thème de ce musée? Ça sera dans la ville de Salé. Est-ce que vous savez? C'est un musée qui sera consacré à...
Au beurre.
Au
beurre.
Musée du beurre. Ah, beurre salé. Waouh.
Ah, elle est pas mal, celle-là.
Waouh.
Double jeu. Je ne vais pas l'encourager.
Attends. À l'addition?
Non. L'addition sera salée, ok, très bien. Non, c'est pas considéré comme un art traditionnellement, en tout
à
cas.
La photo,
la BD peut-être.
Pas la bande dessinée.
Le jonglage.
Le petit.
On l'a évoqué
petit.
Tout à l'heure.
Au bijou.
Non.
La mode.
Non plus.
Au caftan.
Non plus.
L'UX.
Le musée glamonné.
Vous ne trouverez donc jamais.
La cuisine.
Non plus.
La sculpture.
Non plus. Pas quelque chose traditionnellement considéré comme un art. On se dirait, tiens, un musée sur.
Les disques.
L'argent. Le limbo.
Je
vous le donne.
Le pole dance.
Les mini-jupes.
Non, on en a parlé tout à l'heure et Tahar n'aime pas ça du tout.
Ouais, mais alors.
Mes questions. Le musée de mes questions.
C'est pas son truc, c'est pas son truc à Tahar.
Le football,
le cinéma.
Absolument, le foot.
Sport. Yes.
Foot, un espace de 2000 mètres carrés dont le chantier est en cours, qui va héberger des collections permanentes qui vont retracer ainsi l'histoire du ballon rond au Maroc, avec aussi des expositions temporaires qui vont permettre de faire une sorte de mix entre l'art, le football, et ainsi développer cette thématique. Est-ce qu'il y a un musée que vous aimez particulièrement, Tahar? Un endroit, on a évoqué tout à l'heure...
Au Maroc ou ailleurs?
Peu importe, le musée de votre choix.
Ah, j'aime beaucoup le musée Pompidou.
Oui.
Beaucoup.
Pourquoi vous l'aimez à ce point?
J'aime son architecture.
Oui.
D'abord. Et puis le Guggenheim à Bilbao et à New York. J'aime bien leur architecture d'abord et puis ce qu'il y a dedans.
Mm-hmm.
Et puis le Prado pour les souvenirs d'enfance. Quoi.
Oui. Autre question, quel est l'auteur du livre Guerre qui va sortir le 5 mai chez Gallimard?
Poutine.
Le livre de...
Le titre s'appelle Guerre et je cherche l'auteur.
Bernard-Henri Lévy.
Non, et l'auteur est mort. L'auteur. Il va apparaître dans la classique collection Blanche dans une édition qui sera établie par
Camus.
Un historien.
Camus?
Non, Céline. Blanche, c'est Frédéric Bébé.
Absolument, Bébédé. Bravo, Céline. Tahar, c'est Céline.
Des textes dégueulasses.
C'est ça, sans doute. Enfin, des textes en plus, hein, quoi, pour le dire comme ça. Des textes qui ont été retrouvés, qui avaient été bloqués, qui maintenant vont pouvoir être publiés. Est-ce que vous avez un conseil lecture à nous donner? Par exemple, des auteurs marocains. Moi, j'ai découvert Mohamed Chokri, par exemple, Le pain nu. J'ai trouvé que c'était un texte sublime. Est-ce qu'il n'y a pas des auteurs comme ça qu'on pourrait découvrir?
Oui, il y a une jeune femme, Yasmine Chami, qui a publié récemment chez Actes Sud son 4e roman, qui s'appelle Dans sa chair. Elle écrit très, très, très bien. C'est une vraie écrivaine. Il y a une jeune Marocaine qui vient de sortir aussi un livre avec un titre très bizarre qui s'appelle La poule et son cumin chez Lattès. Et qui est une histoire de, en fait, c'est l'histoire de la lutte des classes à travers le destin de deux filles, la fille de la domestique et la fille de la grande famille et leur destin va se séparer. Et c'est un peu une métaphore de la lutte des classes au Maroc. La poule et son cumin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Est-ce qu'il y a une tendance dans les nouveaux romans, ceux que vous lisez, qui viennent du Maroc? Est-ce qu'il y a un mouvement que vous...
Il y a beaucoup de femmes qui écrivent sur la condition de la femme, bien sûr. Il y a le dernier livre de Abdallah Taïa que vous connaissez. Bon, là, il parle de sa mère.
Mais par exemple, Leïla Slimani avait choqué ou pas par ses écrits sur la sexualité
au Maroc,
la femme au Maroc, oui.
Oui, oui,
ça avait choqué.
Oui, elle n'est pas très aimée des islamistes, bien sûr, mais elle a un grand public quand même.
Alors, puisque vous parlez des islamistes et des extrêmes, vous évoquez évidemment entre la religion et vous dites être pour la laïcité en disant que chacun a sa religion dans son intimité, que c'est du domaine de l'intime et qu'on n'a pas à l'imposer à qui que ce soit. Vous évoquez dans un roman qui parle de couleurs, de peinture et de dessin, les caricatures, en disant que évidemment il n'aurait jamais dû falloir, enfin il n'aurait jamais dû y avoir ces attentats, mais que en même temps, dans le Coran, il est dit qu'il ne faut pas dessiner le prophète.
C'est-à-dire que le Coran n'a pas interdit ni la peinture ni le dessin.
Non, je parle du prophète.
Mais il est interdit de représenter physiquement, enfin par le prophète et Dieu, parce que ce sont des spiritualités qu'on peut pas limiter, incarner dans une figure. Quand il y a eu le film Le Messager, film américain, Anthony Quinn jouait le rôle du messager, les musulmans n'ont pas supporté.
Sauf que ce qu'il faut dire, Tahar, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'offense possible, puisqu'on ne peut pas représenter le divin. Donc faire un dessin ne représente pas le divin.
C'est ce que vous dites dans le roman, c'est-à-dire que les caricatures n'agressent pas le prophète, mais étaient faites pour se moquer.
C'est-à-dire que finalement, l'histoire des caricatures qui a eu quand même beaucoup de tragédies après, Il a été, c'est-à-dire finalement, moi ça m'avait pas choqué, parce que de toute façon, le prophète c'est un esprit, c'est pas un bonhomme avec une barbe, une bombe dans le turban, c'est pas ça. Bon, mais malheureusement, l'intolérance est telle que ça s'est terminé par des vraies tragédies.
Et qui est une toile extrêmement émouvante, avec comme des larmes noires qui viennent couler sur la lumière des couleurs que vous avez peinte en hommage aux victimes de l'attentat.
Le, le 13 novembre, oui, j'étais en train de peindre une toile sur la danse, et quelqu'un m'appelle, me dit, est-ce que tu es sûr que tes enfants ne sont pas au Bataclan? J'ai dit, mais pourquoi mes enfants seraient au Bataclan?
Parce qu'ils habitent à côté, c'est pour ça.
Ouais, ils habitent dans le 11e. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il se passe? Alors, mais écoute la radio. Et c'était tellement, tellement en colère que j'ai versé du noir sur la toile.
Pour en revenir au roman, à la couleur des mots, à cette manière dont vous vous racontez.
Le récit plutôt.
Le récit, pardon, oui. On a évoqué en termes de voyage Fès, Tanger, et évidemment ce voyage à Paris où, parce que les libraires étaient trop âgés, vous avez 16 ans et ils vous disent, bah, c'est vous qui allez partir pour aller voir un film tous les jours et pouvoir.
Alors, une expérience magnifique. C'était un stage des ciné-clubs à Marly-le-Roi.
Et c'était un film par jour?
Beaucoup plus.
Ah bon?
Parce qu'on faisait pendant 10 jours, on regardait une centaine de films. On voyait toute la carrière de Raoul Walsh, toute la carrière de Jean-Pierre Melville.
Il y a une ville dont on n'a pas encore parlé, qui est la petite sœur, vous dites, de Fès, c'est Matera. Dans les Pouilles.
Matera, c'est magnifique. C'est en Italie, c'est à 60 km à l'est de Bari.
Dans les Pouilles, donc, c'est le talon de la botte, hein, italienne.
Oui, mais c'est la ville, c'est-à-dire que les maisons sont creusées dans la roche même, et c'est extraordinaire. Elle a été ville capitale de la culture en 2019.
Et ce qui vous a plu dans cette ville, c'est quoi? C'est sa géométrie,
c'est son originalité qui m'a rappelé ma ville natale, Fès. C'est tout à fait ça. Alors j'ai fait des esquisses sur place et après j'ai fait des toiles.
Et quand vous êtes parti là-bas, c'était pour créer un musée?
Non.
Pardon?
Non,
mais vous avez été envoyé. Si, alors je me trompe.
On m'a envoyé là-bas pour c'est mon éditrice italienne, Elisabetta Sgarbi, elle m'a dit, il faut que tu ailles à Matera. Je dis, pourquoi? Elle me dit, vas-y, après on verra. Je suis allé, effectivement, j'ai été impressionné, et j'ai commencé à dessiner sur place.
Très bien. Le travail de peinture se fait... D'abord, est-ce que c'est un travail qui s'organise d'une manière très structurée, en disant, il est à l'heure, je vais mettre à la peinture, ou ça vient d'une espèce de pulsion que l'on ne maîtrise pas?
Non, il faut avoir des horaires, et puis surtout, avoir envie. Avoir envie de peindre. Si t'as pas envie de peindre, pas la peine, tu restes sur ta chaise.
Et il faut avoir un atelier, il faut avoir un lieu où on peut peindre n'importe où?
Ah non, il faut avoir un lieu.
Ah oui.
Et depuis un an et demi, j'ai une maison magnifique, enfin une maison, je loue une maison qui fait partie de la ruche, qui appartient à la fondation, comment elle s'appelle, Seydoux. C'est une ruche extraordinaire parce que à l'exposition de 1900, il y a Eiffel, qui a construit une vraie ruche avec à l'intérieur des ateliers. Et à la fin de l'exposition, un sculpteur a racheté tout ça, il l'a planté, il l'a réapplanté dans le 15e. Mais après, ça s'est étendu, il y a un jardin, et tout autour, il y a plein d'ateliers, et il y a une maison qui est collée à la ruche, c'est la maison qu'avait occupée Eduardo Arroyo, le grand peintre espagnol. Et c'est là où je peins, parce que j'ai beaucoup d'espace, j'ai trois niveaux.
Alors ce que j'aime beaucoup aussi dans le livre, dans votre manière de vous raconter, c'est les valeurs qui en ressortent et que l'on peut finalement adapter à sa propre vie, à sa propre hygiène de vie et mentalité, parce que sans être forcément peintre ou romancier, quand vous dites pas de talent sans travail, c'est encore une fois, ça veut dire qu'il faut des efforts et ne pas tomber aussi dans la facilité. Il y a cette image de dire, si c'est trop facile pour moi avec la main droite, je vais me servir de la main gauche.
Oui, je déteste la facilité parce que c'est trompeur et c'est pas vrai qu'on puisse faire des choses facilement. Il faut vraiment que les choses, il faut peiner. Et comme disait Jean Genet encore, derrière chaque œuvre, il y a un drame. Et le drame, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un drame quand même. C'est pas par hasard qu'on écrit, c'est pas par hasard qu'on peint, c'est pas par hasard qu'on
réalise des films. Alors, mais où vous en êtes où de vos projets? Est-ce que vous avez envie de réaliser?
Ah non. Moi, je comprends pas d'ailleurs ça. C'est n'importe qui réalise un film.
Vous n'êtes pas n'importe qui. Arrêtez.
Ouais. Non, mais je sais pas.
Tard, ça reviendrait à dire n'importe qui prend un pinceau et pas une toile, quoi. Donc non, on peut pas dire ça.
Au contraire, je pense que tout le monde doit et peut s'autoriser à créer.
Oui, mais c'est difficile. Enfin,
bah non, mais si ça vous touche pas, ça vous touche pas. Mais
non, c'est pas ça la question. C'est que moi, à l'époque, je voulais faire l'IDEC, qui est le correspondant de la FEMIS.
Ouais. Le cinéma. Bah,
Costa Gavras est sorti d'IDEC. Alain René est sorti d'IDEC.
Ouais, bah, enfin, moi, j'ai une liste énorme de réalisateurs qui n'ont pas fait l'IDEC et qui réalisent
des très beaux films.
Qui ont
réalisé des choses.
Ouais.
Bon, mais bon, quand.
Mais
parfois, il y a des gens qui n'ont aucun talent et qui réalisent des films.
Ah ouais.
Quel enchaînement.
On ne va pas en parler.
On parle de ceux qui n'ont aucun talent.
Des choses des bien ici.
Des excuses à présenter, Daniel Morin, peut-être.
Oui, toi aussi, non. Désolé, pour Nagui, il est là, la direction de France Inter, nos auditeurs fascistes, qui n'avaient pas saisi la particularité d'Alexis Le Rossignol. C'est un poète, ça, notre invité l'a bien entendu. Qu'est-ce que tu fous dans cette émission, Alexis? Tu te gâches, va chez Trapenard, enfin. Désolé, mais là, vraiment, parce que ça n'arrive presque jamais, hein. Désolé pour toutes les vannes de Nagui qui n'ont pas eu ce matin l'accueil qu'elles méritaient. Alors oui, elles n'étaient pas toutes excellentes, mais quand même, c'est le patron, et rien que pour ça, ça se respecte. Désolé, non mais vraiment, désolé, ça n'arrive presque jamais, hein. Désolé pour toutes les tentatives de questions, d'analyses, d'hypothèses de Nagui qui ce matin, alors tout était accueilli par un non. Alors, oui, elles n'étaient pas toutes intéressantes, c'est clair. Mais quand même, c'est le patron et rien que pour ça, ça se respecte.
Merci Daniel, merci Tahar Benjelloun. Bon retour.
Merci à vous.
Par exemple, vous allez faire quoi ce week-end, à part la chasse aux œufs? Vous allez peindre, vous allez écrire, vous allez vous promener, déambuler, vous allez visiter.
Il va faire beau, je vais essayer de chiner, j'adore ça.
Voilà. La couleur des mots, c'est signé Tahar Benjelloun. Et justement, les mots seront également au cœur de notre... Vous vouliez parler des vitraux? Racontez-nous.
Il y a un livre qui a été fait chez Gallimard, qui sort à la fin du mois. Les vitraux de l'église Saint-Génulphe du Tourel, avec Jérôme Clément. Et c'est un livre où on raconte l'histoire de cette aventure, de faire des vitraux dans une église du XIIe siècle.
Les mots, on continuera de jouer avec ces mots et un échange assez émouvant et fort avec Églantine Émeillet qui sera notre invité lundi pour le lundi de Pâques. Bonne chasse aux œufs. Merci mille fois, prenez soin de vous et bon week-end. À lundi.